explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
Impressionnante procession aujourd'hui dans les rues du Caire. 22 momies royales quittent le musée égyptien de la place Tahrir sur des chars pour rejoindre le nouveau musée national de la civilisation égyptienne. Parmi les momies transportées, il y a celle de 4 souveraines, dont la reine pharaon Hatshepsut. Cette femme est loin d'être la seule à avoir marqué l'histoire de l'Égypte ancienne. En 3000 ans, la civilisation pharaonique a connu des centaines de souveraines, grandes épouses royales, régentes, reines ou pharaons. Les noms de certaines d'entre elles nous sont familiers, Néfertari, Néfertiti ou encore Cléopâtre. Mais au-delà des clichés, que savons-nous de ces femmes? Quel rôle ont-elles joué? En s'appuyant sur les dernières découvertes archéologiques, l'égyptologue Florence Quentin dresse le portrait de quelques-unes de ces femmes de pouvoir dans un livre intitulé « Les grandes souveraines d'Égypte » aux éditions Perrin. Cet après-midi, du temple des millions d'années d'Hatshepsut à la grotte sacrée de la vallée des Reines, Florence Quentin nous emmène sur les rives du Nil à la découverte des grandes souveraines de la civilisation pharaonique. Et en fin d'émission, retour en France. Nous nous lancerons à la recherche d'une statuette en or avec Julien Alvarez qui organise une grande chasse au trésor inspirée de la chouette d'or. Voilà pour le programme de cette émission réalisée par Hélène Couillou-Jean et préparée par Claire Tesser avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي.
C'est une chanson que j'ai souvent entendue chanter par les bateliers quand on venait passer les vacances d'hiver en Haute-Égypte, près de Louxor. Le soleil est en train de tomber de plus en plus bas. Il y a il y a le bétail, et puis juste à côté, il y a un petit champ où on est en train de brûler des chaumes. Alors il y a cette fumée avec le soleil qui est en train de baisser, et les palmiers au fond des terres arables, et derrière la chaîne de l'ouest, la chaîne du désert libyque. Et bien, il faut être fait de pierre pour ne pas tomber sous le charme de ce paysage extraordinaire et de cette lumière fantastique.
Bonjour Florence Quentin.
Bonjour.
Nous étions à l'instant sur le Nil, à bord d'une felouk avec Moenes Vissa, franco-égyptien, professeur à l'université du Caire. Il était au micro de Claude Villers en 2002. Florence Quentin, vous êtes égyptologue passionnée par cette civilisation pharaonique. Vous êtes d'accord, je vous voyais acquiescer, vous êtes d'accord avec Moenes Vissa. Il faut être de pierre pour ne pas tomber sous le charme de cette terre.
Oui, il me semble impossible de ne pas tomber amoureux au premier regard. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait mon premier voyage à l'âge de 12 ans, c'était un privilège. J'étais partie avec ma sœur et ma mère qui étaient journalistes et reporters. Et on avait déjà voyagé, donc j'avais d'autres points donc de référence. Mais lorsque nous sommes arrivés, comme il le dit d'ailleurs dans la Haute-Égypte, qu'on appelle le Saïd, dans la région de Louxor, j'ai eu un émerveillement sans fin, un coup de foudre au premier regard. Et puis j'ai senti que j'avais retrouvé mon Orient.
Ouais, c'est ça, hein. Vous dites que vous avez eu l'impression de rentrer chez vous lors de votre premier voyage en Égypte.
Oui, tout à fait, d'autant que je n'avais pas encore étudié l'Égypte à l'école, je n'avais pas lu, comme d'autres égyptologues qui ont découvert leur passion, leur vocation d'égyptologue à travers des lectures. J'ai tout ressenti très intensément. D'ailleurs, en Égypte, l'Égypte exacerbe tous les sens. L'épaisseur du temps est comme palpable à travers cette terre palimpseste avec ces éléments qui se sont superposés. Et j'avais donc ces sens, j'ai tout ressenti plus intensément avec mes sens.
Les couleurs, la lumière, tout cela est particulier, singulier. Quand on est sur le Nil et qu'on glisse, vous étiez sur une felouk, hein, c'est un bateau, décrivez-nous ces bateaux égyptiens.
Oui, ce sont des bateaux qui sont complètement intégrés au paysage égyptien, hein, qui sont même des sortes de clichés, de stéréotypes dans les photos. Ces grandes voiles blanches qui glissent le long du fleuve. Et lorsque je suis arrivée, donc mon premier voyage, de nuit, nous avons pris une felouque et j'ai vu ce ciel constellé. J'ai vraiment eu le sentiment d'une expansion, d'une espèce de vie augmentée. C'était vraiment la passion qui naissait en moi et qui s'est confirmée par ma vocation d'égyptologue.
Et puis il y a ces monuments, hein, les vestiges et les œuvres d'art de la civilisation pharaonique qui ont traversé les siècles et qui ont passionné des générations d'égyptologues, dont la formidable Christiane Desroches Noblecourt. La voici évoquant sa passion et sa fascination pour l'art égyptien en 1996 sur France Culture.
Tout m'attirait, aussi bien les petites histoires que je pouvais lire lorsque j'étais enfant, qu'ensuite toutes les représentations de ces femmes, de ces hommes qui sont très beaux et qui ont l'air d'être nos contemporains et qui portent en eux un mystère uniquement parce qu'ils se meuvent de profil, mais on voit leurs épaules de face, on voit leurs yeux de face et leur visage de profil. Tout ça m'a attiré. C'était aussi un peu le mystère. Mais un mystère qui était compréhensible. L'art égyptien est un art d'une élégance extraordinaire, d'un dépouillement extraordinaire. Et puis derrière ces regards, surtout des statues, il y a un message. Regardez une statue grecque, c'est vrai qu'elles étaient peintes, comme les statues égyptiennes. C'est froid, c'est beau, mais c'est froid. Mais regardez une statue égyptienne, aussi bien le scribe accroupi qu'une statue de Ramsès. Mais il y a quelque chose, il y a une pensée derrière, il y a une métaphysique. Et ça touche n'importe qui. On ne peut pas être indifférent à une représentation égyptienne.
Christiane Desroches Noblecourt en 1996. Florence Quentin, pourquoi les peintures, les représentations de l'Égypte des pharaons nous fascinent-elles autant ?
Alors parce qu'elles sont souvent sublimées, notamment les femmes, la beauté des femmes est sublimée. C'est un art qui ne cherche pas à être réaliste, à être exact, mais à faire ressortir l'essence des êtres. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, par exemple pour le sculpteur, c'est celui qui rend vivant. Il rend vivant une statue. Elle est animée par une sorte d'esprit. Donc effectivement, on ne cherche pas à être vraiment très exact, très précis, mais on a l'impression souvent, quand on regarde l'art égyptien, qui est, vous le savez, immédiatement reconnaissable, c'est pour ça qu'il a inspiré la BD notamment, eh bien on a l'impression qu'il est stéréotypé, mais pas du tout. Comme le disait Christiane Desroches Noblecourt, il est subtil et on voit des détails, par exemple les plis du ventre du scribe accroupi. On nous donne des détails qui précisent un peu la qualité ou la fonction de la personne qui est représentée. Et effectivement, elle a raison. Il y a quelque chose de métaphysique et de symbolique dans l'art égyptien. Ça renvoie notamment à un terme qu'on appelle néfer. Néfer, c'est la beauté, c'est la perfection physique, mais ça veut dire aussi la perfection morale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sagesse sans esthétique, il n'y a pas de beauté sans bonté. Il y a toujours cette symbolique éthique à l'œuvre dans ces œuvres d'art.
C'est ce qui explique que toutes ces femmes, hein, vous consacrez votre livre « Les grandes souveraines d'Égypte » à ces femmes de pouvoir de l'Égypte antique. Et toutes ces femmes, en tout cas celles dont le nom est arrivée jusqu'à nous, la représentation est arrivée jusqu'à nous, sont dépeintes, sont représentées comme de très belles femmes. C'est parce que ça allait de pair avec justement la sagesse, comme vous venez de nous le dire.
Alors dans le cas des reines, ça va avec l'idéalisation du pouvoir royal. Parce que les reines, comme les pharaons, sont des représentants du divin sur Terre. Ce sont des êtres qui sont inaccessibles. On n'imagine pas ce que devait être la cour royale. Ce sont des divinités sur Terre. Donc elles sont forcément idéalisées, comme par exemple le portrait célébrissime, le buste de Néfertiti, qui est un buste complètement créé artificiellement. Elle était certainement très belle. Elle s'appelle La Belle est venue d'ailleurs. Mais effectivement, il y a une idéalisation du portrait parce qu'on est confronté à des divinités.
On y reviendra, à ce buste de Néfertiti. D'ailleurs, on a mis une photo de ce buste superbe sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Il y a une part de mystère autour de ce buste. On y reviendra par la suite. Commençons avec Cléopâtre. Cléopâtre qui est peut-être une de celles les plus connues, une de celles qui a fait fantasmer le plus de réalisateurs hollywoodiens. Du coup, on a plein de clichés sur Cléopâtre. Cléopâtre, qui était-elle réellement, Cléopâtre ?
Alors Cléopâtre, si c'est la plus connue, c'est la dernière reine d'Égypte. Ouais. Voilà pourquoi elle fascine. C'est la Cléopâtre VII, la descendante des Lagides. Ce sont les généraux d'Alexandre le Grand qui a conquis l'Égypte en 332 avant notre ère. Et elle va réellement se battre bec et ongle pour conserver la supériorité, enfin du moins l'indépendance de l'Égypte face à Rome qui est hégémonique. Donc elle va se battre et c'est une femme supérieurement intelligente qui parle 7 langues. Elle parle l'égyptien, c'est la seule l'Agide, c'est-à-dire des rois macédoniens, qui va faire l'effort d'apprendre l'égyptien. Elle a été sans doute formée au musée, le Muséion, c'est-à-dire c'est l'épicentre de toutes les connaissances de cette époque à Alexandrie. Donc c'est une femme lettrée, fine stratège, et elle va donc rayonner sur son époque. Mais hélas pour elle, on la connaît grâce aux auteurs latins qui vont à la fois être forcés d'une certaine manière de décrire leur admiration pour cette grande, grande reine, son intelligence, sa stratégie, mais aussi ils vont beaucoup médire sur elle. Et ils vont beaucoup la critiquer, et ça va même très loin. Il va y avoir une réputation de putain d'Orient, à la sensualité insatiable, une femme très ambitieuse qui essaie ses poisons sur ses prisonniers. Tout ça, c'est une fable. C'est une légende qui va, hélas, la poursuivre en Occident pendant jusqu'à aujourd'hui, à travers l'art, à travers la littérature, la tragédie, et jusqu'au péplum, parce que dès le cinéma muet, on s'empare de ce personnage tout à fait subjugant de femme fatale.
Ouais. Alors justement, vous l'avez un peu réhabilité, hein. C'était avant tout une femme d'une grande intelligence et pas aussi machiavélique que la dépeint ensuite la fiction.
Alors, elle n'avait pas beaucoup de choix. Alors ensuite, il faut dire que les Lagides, c'était des dynasties extrêmement sanguinaires. On se tuait beaucoup entre frères et sœurs. Elle a fait exécuter sans doute ses frères. Elle était mariée à ses frères.
Ouais. C'est quand même pas super sympa.
Mais c'était en vogue à la cour de l'Agide. Ah bon. On s'exécutait assez facilement, on s'empoisonnait, etc. Ce sont des dynasties assez sanguinaires. Mais elle a dû s'imposer comme femme, comme reine. Mais elle apparaissait encore une fois dans cette symbolique dont je parlais, comme la nouvelle Isis, nous dit Plutarque, avec une robe comme exactement telle qu'on voit l'Istellor Cléopâtre arriver à Rome devant Rome subjuguée. Elle arrive dans une robe dorée, telle la déesse Isis. Donc elle a besoin de s'imposer parce que de toute façon, la géopolitique de l'époque et la politique de l'époque est extrêmement complexe. Et il y a Rome qui veut soumettre vraiment le pays, en faire une simple province romaine. Elle n'a pas d'autre choix que d'être stratège. Mmh. Et c'est effectivement une grande reine, et ça va se terminer par la fin de la souveraineté de l'Égypte, puisque Octave Auguste va battre Cléopâtre et Marc-Antoine en 30 avant Jésus-Christ, à Axium, et les conduire tous les deux au suicide.
Ouais. Alors, en 30 avant Jésus-Christ, mais avant cette date-là, il y a eu 3000 ans de civilisation égyptienne. Et au cours de ces 3000 ans, de nombreuses femmes de pouvoir sont passées dans cette histoire.
Oui, les femmes ont un statut absolument privilégié en Égypte par rapport au reste du monde antique. Alors, il ne faut pas non plus idéaliser la société égyptienne. Elles sont aussi sujettes à discrimination. C'est une société patriarcale, mais par rapport à leurs sœurs grecques et romaines, qui sont toujours sous tutelle ou curatelle de leur mari ou de leur père, les Égyptiennes sont libres. Elles ont un statut juridique plein et entier, et elles peuvent exercer tous les métiers et les fonctions qui, partout ailleurs dans le monde antique, sont réservés aux hommes. Donc, elles ont une certaine indépendance et puissance, et on trouve des femmes amirales, des femmes prêtresses, gardes des sceaux, etc. Et des femmes, bien sûr, régentes et pharaons.
Et on trouvera même des femmes pharaons. Dans un instant, nous allons faire plus ample connaissance avec une des plus puissantes femmes pharaons, Hatshepsut. Nous nous intéressons aussi au mystère qui entoure Néfertiti. Le temps d'un bivouac avec l'égyptologue Florence Quentin, sur les rives du Nil, à la découverte des grandes souveraines de l'Égypte antique sur France Inter.
Si le battement presse ta poitrine avec force à te donner l'envie de t'élancer dans le vide, sans raison, sans filer, sans compter le temps qui défile, danse, danse, danse. Une avalanche t'escorte, laisse-la franchir les dernières portes, relâche tes hanches, brise les chaînes qui bridaient ton corps, libère-le, libère-toi, sors. We'll be right back.
C'était Danse, Miss Sparrow sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Posé au pied des collines de Thèbes, le temple d'Hatchepsout est une merveille architecturale. Ses lignes pures et géométriques contrastent de manière remarquable avec la falaise aux contours déchiquetés. C'est certainement un des plus beaux temples du pays. L'écrin qui commémore le plus dignement la vie du grand pharaon Hatshepsut. Les textes la décrivent ainsi, celle qui sera une conquérante contre ses ennemis. Sur ce fer de hache en alliage de cuivre sont gravés des noms et des titres d'Hatshepsut. Pour moi, c'est le symbole absolu de cette femme pharaon, de cette guerrière.
L'égyptologue Joan Fletcher évoquant cette femme pharaon Hatshepsut. Florence Quentin est avec nous, égyptologue qui publie Les grandes souveraines d'Égypte aux éditions Perrin. Hatshepsut, c'est une des femmes pharaons les plus célèbres aujourd'hui. Elle a même inspiré un manga, vous le dites dans votre ouvrage, Florence Quentin. Reine d'Égypte, c'est le titre de ce manga. Elle a eu un rôle important dans l'histoire de l'Égypte antique.
Oui, un rôle très important parce que elle a finalement, c'est parmi celles qui ont été reine pharaon à peu près à 4 ou 5 moments de l'histoire de l'Égypte, elle est la seule qui ait régné 22 ans d'un règne pacifique, un règne marqué par une intense fièvre bâtisseuse, des spéculations intellectuelles, notamment sur les livres funéraires. Et également, elle a diligenté des expéditions lointaines, elles aussi pacifiques, et elle a beaucoup, effectivement, beaucoup construit. Et elle a apporté cette prospérité à l'Égypte, c'était une grande reine.
Ouais. Alors, elle a vécu, pour qu'on la situe dans le temps, il y a 3500 ans environ. Comment, puisque à l'époque, quand même, les pharaons, c'était... Dans la situation habituelle, c'était des hommes. Comment cette femme, dans quelles circonstances est-elle devenue pharaon ?
Alors, quand il y a eu des reines qui ont pris les pleins pouvoirs comme pharaon, c'est souvent à des moments de rupture ou d'incertitude politique. Et là, cette Hatshepsut, elle est la fille de Thoutmôsis Ier, elle est un peu sa favorite, il la forme un peu aux affaires de l'État, mais quand il meurt, elle doit épouser son demi-frère, vous savez, ces unions dans la famille, très proches, son demi-frère qui, donc, elle devient la grande épouse royale, traditionnelle. Mmh. Et puis, son demi-frère décède au bout de 3 ans seulement, et elle a 15 ou 16 ans, cette jeune veuve, elle n'a eu entre guillemets qu'une fille, et lui-même a eu un fils d'une épouse secondaire, parce qu'ils avaient de nombreuses épouses. Et donc ce petit garçon a 3-4 ans, c'est Thoutmôsis III, il devient un pharaon, mais c'est elle qui va devenir sa régente. Mais à la différence de certaines autres reines qui vont toujours rester régentes, eh bien elle passe la ligne décisive, elle franchit cette ligne en 1479 à peu près avant notre ère, et elle prend les sceptres et les couronnes selon la formule consacrée, et elle devient un pharaon.
Alors, il faut quand même avoir en tête que, vous l'avez un peu ébauché, ce sont des familles très consanguines. Hein, c'est-à-dire que elle est régente par rapport à ce pharaon qui a 3 ans, donc qui n'est pas en âge de régner, mais ce pharaon, elle est à la fois sa tante, sa belle-mère et sa demi-sœur. On comprend quand même que les arbres généalogiques sont très emmêlés, mais dans cette histoire, elle n'a pas de frère direct, son époux est décédé, donc effectivement, elle a un peu le champ libre. Mais là, et c'est ce qui est passionnant dans ce que vous nous dites, c'est qu'elle pousse l'histoire à son avantage et elle va réussir à faire admettre qu'elle est de plein droit pharaon avec tous les attributs qui vont avec.
Oui, ce qui est étonnant et moi, ce qui me fascine chez cette femme qui est tellement moderne, sans être anachronique, avoir ce regard anachronique, c'est qu'elle va toujours conserver sa féminité et des signes de sa féminité. Elle est attachée à cette féminité. Ce n'est pas une icône queer, comme on a pu le dire. Elle ne se travestit jamais. Elle est toujours une femme qui, pour accéder au pouvoir et pour affirmer son pouvoir, va prendre les attributs masculins, notamment le némès, cette coiffure à rayures qu'on trouve sur le sphinx. Elle va porter le pagne et les insignes du pouvoir masculin, notamment la barbe postiche. Ouais. Mais à l'arrière, par exemple, du pilier de cette statue, elle va être qualifiée avec des épithètes au féminin. Parce que jamais elle n'abandonne cette dimension féminine. Elle va jouer avec ce qu'on appelle aujourd'hui la fluidité de genre et que nous redécouvrons.
Ouais. Alors elle va ordonner aussi, pour asseoir son pouvoir, la construction d'un temple funéraire qui est considéré comme un des plus beaux monuments de l'Égypte antique. Der el-Bahari, c'est le site sur lequel il se trouve, le temple des millions d'années. Décrivez-nous ce site. On a mis une photo sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, mais prenons le temps de le décrire.
Alors, il s'appelle Djezer Djezerou, c'est-à-dire le sacré des sacrés, la merveille des merveilles, et il est unique dans l'histoire de l'architecture égyptienne. Il s'intègre parfaitement à cette montagne thébaine, ocre, très très belle, qui prend aussi toutes les couleurs du jour. Du matin, il est rose incarnat, le soir, il est orangé, et il semble surgir de cette montagne qui le domine à 200 mètres. Et elle a fait donc bâtir ce château de millions d'années, c'est-à-dire un temple où on apporterait des offrandes et des prières après sa mort. Et donc, on accédait donc à ce temple par un environnement plus du tout aussi minéral qu'aujourd'hui, avec des bassins, des arbres, des plantes et sans doute des animaux qui se promenaient dans...
Mais quand vous vous promenez aujourd'hui, parce que vous y allez régulièrement en Égypte, quand vous vous promenez sur ce site, vous arrivez à vous transporter justement plus de 3000 ans en arrière et imaginer que ce site entièrement minéral aujourd'hui ait été aussi verdoyant.
Pour moi, c'est plus facile parce qu'il y a eu des reconstitutions récentes, d'ailleurs, virtuelles. Et puis, j'ai lu des textes où elle parle de cette expédition. Donc, elle va diligenter au pays de Punt, le Soudan actuel, où on va ramener notamment ces arbres à encens. Et on a une maigre racine à l'entrée du temple de Deir el-Bahari. On voit encore qu'il y avait ces arbres à encens qui étaient si essentiels pour le culte, célébrés, concélébrés dans tout le pays. Et il fallait beaucoup d'encens pour célébrer ces divinités, qui, notamment Amon, par la voix d'un oracle, l'a porté au pouvoir.
Ouais, alors, pour bien situer toute cette histoire très longue qui s'étale dans le temps, quand le temple d'Hatshepsut est édifié, les pyramides ont été construites déjà depuis 1000 ans.
Oui, plus de 1000 ans.
Ça donne la profondeur du temps de cette civilisation incroyable.
Oui. Voilà pourquoi je parlais de l'idée de ressentir cette épaisseur du temps qui est si particulière en Égypte. On a donc ce sol palimpseste, et quand on est à Deir el-Bahari, c'est à peu près le temps qui nous sépare des bâtisseurs de cathédrales.
C'est ça. Voilà. Entre Hatshepsut et les pyramides, il y a le même temps qu'entre nous et les cathédrales.
C'est ça. Et même plus encore. Ouais. 1476. Il y a à peu près 1100 ans, effectivement. Et donc, c'est extrêmement troublant quand on se rend compte de la longueur de ce temps long qui s'est déroulé en Égypte.
Pourquoi les Égyptiens ont-ils arrêté de construire des pyramides et justement se sont lancés dans des constructions comme ce temple d'Hatshepsut?
Alors d'abord, il y a eu aussi des capitales qui ont changé à l'Ancien Empire. Il s'agit d'une capitale qui est à Memphis, dans le nord, dans la basse Égypte. Et puis la capitale va être transposée à Thèbes, c'est-à-dire en Haute-Égypte, dans le sud de l'Égypte. Et puis les Égyptiens avaient compris à un moment donné que même les pyramides les mieux protégées avaient déjà été pillées dès l'Antiquité. Donc ils ont choisi le site de la Vallée des Rois, des vallées funéraires, Vallée des Reines, etc., pour cacher, entre guillemets, le croyait-il, dans la profondeur de ces montagnes, cacher leurs hypogées, tombes qui seront également toutes pillées dans l'Antiquité.
Ça n'a pas empêché les pillages. Pas complètement toutes, puisque par exemple, Toutankhamon, on l'a découverte beaucoup plus récemment. Et cette vallée des rois, cette vallée des reines, on les trouve non loin de Louxor. Je vous propose d'aller y faire un tour avec une nouvelle fois l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt, qui est une des premières à avoir saisi l'importance de la grotte devenue grotte sacrée qui se trouve dans l'alignement à l'extrémité de la vallée des reines. En 1990, elle était interviewée, Christiane Desroches-Noblecourt, à ce sujet en pleine fouille.
Je suis en train d'ôter la dernière poussière avant d'arriver à la surface de la pierre qui a été passée à l'ocre. Et vous voyez, quand on arrive ou à l'objet qui est engagé ou à une paroi peinte, on est obligé d'employer le tout petit pinceau, la balayette, et c'est ce que je fais.
Et quel a été le premier soupçon de ce lieu, comme le premier pressentiment?
Le premier pressentiment a été que je voyais que la vallée des rois était dominée par une pyramide naturelle qui est l'emblème masculin. Et je voyais bien que la pyramide ne brochait pas sur la vallée des reines. Et logiquement, quand on connaît la mythologie égyptienne, je me disais la nécropole des dames doit être dominée par un emblème féminin. Et j'ai tout de suite pointé sur la grotte qui avait une ouverture qui évidemment rappelait l'utérus de la vache. C'est dans la religion égyptienne très connu, la grande vache à tort met au monde les désincarnés.
Alors dans ce cul de vache, pour l'instant, nous ne trouvons rien que des symboles muets.
C'est le plancher utérus de la grande vache céleste que les Égyptiens ont utilisé comme symbole de cette espèce d'immense animal cosmique qui met au monde l'humanité. Mais en fait, c'était pour eux l'image de la féminité divine qui mettait au monde les êtres humains.
Christiane Desroches-Noblecourt, qui ne se démonte pas hein, face au manque de poésie de son interlocuteur. C'est bien plus que le cul d'une vache, hein, cette grotte sacrée, Florence Quentin.
Oui, c'est un peu curieux. Comme, c'est peu archéologique en tout cas et peu symbolique. Elle avait effectivement, Christiane Desroches-Noblecourt, cette sensibilité à la symbolique égyptienne que nous avons perdue. C'est une civilisation qui nous est très étrangère, au fond, et on sait finalement, soyons humbles, assez peu de choses. Mais cette grotte, effectivement, qui domine la vallée des Reines, et certainement, elle représente l'utérus par lequel le défunt doit repasser pour naître tel un nouvel enfant, un enfant solaire. Et même, j'irais même plus loin, je trouve que cette ouverture de cette grotte ressemble à la vulve de la grande déesse mère qu'on retrouve dans d'autres civilisations, notamment chez les Celtes.
Pourquoi avoir séparé la vallée des rois, la vallée des reines, c'est-à-dire que les femmes et les hommes souverains, souveraines, n'étaient jamais enterrés ou embaumés et ensuite mis dans des tombeaux adjacents?
Bien, à mon sens, c'est plutôt une promotion, parce que les reines étaient souvent enterrées avec leur mari, mais comme une sorte, entre guillemets, de faire-valoir symbolique, car il fallait qu'ils soient accompagnés par un élément féminin pour accéder à leur éternité. À partir d'un certain moment, on a construit des tombes spécialement pour les reines qui pouvaient se passer, entre guillemets, de leur royal époux pour accéder à l'immortalité.
Ouais. Dans un instant, nous allons nous intéresser à Néfertiti et vous nous parlerez de cette hypothèse d'une chambre secrète dans le tombeau de Toutankhamon qui pourrait abriter le sarcophage de Néfertiti. Notre bivouac en Égypte sur les traces des grandes souveraines de la civilisation pharaonique nous réserve encore quelques surprises. Natacha Atlas qui chantait Maktoub sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Au maître du trône, de la haute et de la basse Égypte, longue vie à ta nouvelle épouse.
Longue vie à Néfertiti ! Longue vie à Néfertiti !
Bienvenue sur la terre du Nil, épouse que les dieux m'ont destinée. Mon peuple t'a donné un nom, Néfertiti. Le monde entier respectera la femme d'Amenophis. Trois.
Néfertiti ! Néfertiti !
Néfertiti !
Qu'est-ce que ça veut dire, Nefertiti ?
La belle est venue.
Extrait du film Nefertiti de Guy Gilles dans cette émission consacrée aux grandes souveraines de l'Égypte avec notre invité, l'égyptologue Florence Quentin. Qui était-elle, Nefertiti ? Elle n'a pas été pharaon, mais c'est une reine qui a eu du pouvoir.
Oui, on ne sait pas qu'elle est. On connaît mal ses origines. Elle a en tout cas épousé Amenophis IV, le fils d'Amenophis III. Et ce pharaon monothéiste qui va faire une réforme extrêmement audacieuse, politico-religieuse. Il va imposer le culte du dieu unique, Aton, le disque solaire, et elle va être une actrice essentielle de cette réforme. Ouais. On la voit représentée avec son mari, en train de faire des offrandes, mais plus étonnamment, elle fait les offrandes seule, ce qui est inédit. Ouais. Et également, on la voit pratiquer le massacre des ennemis, par exemple, qui est une iconographie, en général, réservée au seul pharaon.
Et vous dites, dans votre ouvrage, qu'aucune reine avant elle n'avait été figurée aussi fréquemment et n'avait eu une telle importance dans les représentations. Mais alors là-dessus, les égyptologues ne sont pas tous d'accord. Certains disent, pour avoir été aussi représentée, cette femme avait forcément un pouvoir gigantesque. D'autres disent que c'est une symbolique, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle avait le pouvoir réellement.
Oui, comme souvent en égyptologie, il s'agit d'hypothèses. En général, on n'est pas d'accord les uns avec les autres. On peut penser qu'elle a eu un pouvoir partagé avec son époux, ou on peut imaginer qu'il s'est en quelque sorte servi d'elle comme une sorte de communication pour montrer qu'il y avait le fils d'Aton, sa fille, comme des jumeaux divins et avec leurs enfants, comme une sorte de propagande royale et idéologique.
Et là encore, dans les représentations, il y a encore, on joue avec les genres, puisque dans les représentations de Nefertiti, il y a des éléments du visage de son mari, et dans les représentations de son mari, qu'on appelait aussi Akhenaton, si j'ai bien compris, il y a des traits du visage de son épouse. On brouille les pistes.
Oui, il y a une fusion. Ouais. C'est tout à fait étonnant. On voit qu'il y a un glissement iconographique. Au départ, on la reconnaît, elle est très fine, très belle. Et puis, progressivement, elle prend les traits de son mari, ou il prend ses traits à elle. Il y a une uniformisation des traits. Mais là aussi, c'est essentiellement symbolique et idéologique.
Ouais. Et il y a un buste de Nefertiti, là aussi, qui fait débat dans la communauté des égyptologues. Particulièrement beau. On en a mis une photo sur notre page Facebook. Décrivez-le-nous.
Alors c'est un très très beau buste effectivement polychrome qui représente la reine à son apogée. Mais comme je vous le disais, c'est un portrait construit. On s'est rendu compte qu'il avait été construit, parfaitement construit, idéalisé. Et elle représente la déesse Hathor. La belle est venue, c'est la déesse Hathor incarnée. Mmh. Et ce buste a été découvert en 1912 par l'égyptologue Borchardt dans l'atelier d'un sculpteur royal. Et depuis sa découverte, parce qu'il est sorti d'Égypte de manière assez rocambolesque, eh bien, il pose question sur son authenticité.
Oui, c'est-à-dire que certains trouvaient qu'il était trop actuel, qu'il faisait penser à un côté kitsch, à un côté art déco, mais finalement une plastique, une représentation trop moderne, et pensaient qu'il s'agissait d'un faux. Quel est votre avis à ce sujet ?
Écoutez, c'est troublant parce qu'on n'a pas d'autres exemples qui ressemblent à ce portrait de Nefertiti. Mais l'art amarnien, c'est-à-dire l'art de l'époque d'Akhenaton et Nefertiti, est un art en rupture complète avec l'art traditionnel égyptien. Donc on peut être surpris. Et il y a eu des recherches, on a appliqué sur une grille avec des mesures égyptiennes ce buste et le buste d'Akhenaton, et on se rend compte qu'ils convergent, c'est-à-dire que ce sont des portraits construits, et à mon avis c'est un portrait qui est
authentique. Qui est authentique. Alors, il est particulier parce qu'il y a un des yeux qui est incrusté de verre et de cristal de roche, et puis l'autre qui est vide, qui donne un regard très particulier à cette représentation.
Oui, qui justement la rend si attractive, parce qu'elle est parfaite, mais il manque cet œil. Et on pense que c'était un modèle d'atelier, donc montrer aux élèves comment sculpter ces visages royaux qui étaient ensuite propagés dans toute l'Égypte. Donc il manque cet œil.
Alors, autre controverse, la momie de Nefertiti aurait été retrouvée en 1898 par Victor Loret parmi 17 autres momies. Mais certains égyptologues pensent que ça n'était pas elle, d'autant que c'est compliqué les analyses ADN dans la mesure où il y a beaucoup de consanguinité entre tout ce monde-là. Certains pensent que le tombeau de Nefertiti reste à découvrir. L'archéologue Nicholas Reeves est même même sur une piste. Il annonçait en 2015 que l'un des murs du tombeau de Toutankhamon, beau-fils de Nefertiti, pourrait mener à deux chambres funéraires cachées.
Ce qu'on a observé au scanner derrière les parois, ce sont des cavités qui ne peuvent pas être naturelles. Elles sont extrêmement verticales, taillées à angle droit. Des cavités qui peuvent s'apparenter à des chambres funéraires.
Nefertiti pourrait donc être enterrée ici, derrière l'une des parois de ces murs. Hypothèse si excitante que le ministre des Antiquités égyptiennes s'est déplacé.
Ces découvertes sont très importantes et elles semblent clairement démontrer l'existence de deux chambres funéraires accolées à celle de Toutankhamon, un tombeau indépendant ou une extension de celui-ci.
Extrait d'un reportage du journal de France 3 diffusé en septembre 2015. Alors Florence Quentin, ça a avancé depuis 5 ans, cette recherche d'un tombeau caché dans le tombeau de Toutankhamon.
C'est vrai que c'était une déclaration un peu prématurée parce qu'il y a eu d'autres mesures radar qui infirmaient les premières. Mais il y a eu un rebondissement en début 2020. Justement, l'ancien ministre, Mamdou El Damati, qu'on a entendu, a mené des investigations juste à côté de la tombe de Toutankhamon, juste au-dessus. Et il semblerait qu'il y ait que le radar ait découvert, enfin, ait émis des sons. Il y aurait des cavités et il parle même d'une pièce et d'un couloir qui pourrait rejoindre la cavée 62, c'est-à-dire la tombe de Toutankhamon. Et évidemment, ça pourrait être la dernière demeure de Nefertiti, ou à mon sens, plus vraisemblablement, en tout cas c'est mon hypothèse, celle de leur fille aînée Meritaton, qui aurait régné comme reine pharaon, encore une reine pharaon.
Mais à chaque fois qu'on entend ces histoires, on se demande mais pourquoi ils n'y vont pas plus vite voir ce qu'il y a derrière ce mur, on a envie de savoir.
Alors c'est compliqué parce que la tombe de Toutankhamon c'est un symbole absolu et puis il faudrait passer même une petite caméra mais faire ce geste-là est quand même controversé et pour l'instant ça va prendre du temps. Déjà il faudrait reprendre ces investigations au-dessus de la tombe et voir s'il y a un lien entre ces cavités et puis cette tombe.
Mais passer une petite caméra endoscopique vraiment minuscule, ça endommagerait trop ou simplement on n'a pas envie de savoir, on préfère cultiver le mystère, finalement c'est presque plus beau de ne pas savoir.
Je pense aussi qu'il y a des relations entre l'Égypte et la France, et c'est un petit peu compliqué, entre les équipes françaises, anglaises, enfin en tout cas anglaises avec Nicolas Reeves, égyptiennes, mais l'ancien ministre, en tout cas, je pense, Mamdou El Damati, va poursuivre ses investigations.
Dans quelle mesure l'Égypte d'aujourd'hui est encore influencée par la civilisation pharaonique ?
Alors pour moi, c'est évident qu'il y a un continuum. Il y a une continuité entre l'Égypte ancienne et l'Égypte contemporaine. Les Égyptiens étaient définis comme des êtres pieux et conservateurs. Ils sont toujours pieux et conservateurs, en dépit des révolutions, des orientations idéologiques et politiques, qui, bien tout ça, ça a changé. Mais les Égyptiens sont toujours très attachés à leur terre. Ils ont été faits par cette géographie, ce Nil, etc. Et on le voit avec cette grande parade de tout à l'heure à 18h, que je vous invite à suivre, parce que c'est quelque chose d'unique. Un pays qui fait défiler 22 momies de ses rois et reines dans une ville de 30 millions d'habitants, ça montre le lien qui existe avec ces Égyptiens et aussi que l'Égypte est toujours la mère du monde.
Alors ça a lieu ce soir à 18h, je crois, dans les rues du Caire. 22 momies qui vont être transférées d'un musée au nouveau musée du Caire, musée égyptien. Il y a Ramsès II parmi les momies transportées. Il y a aussi celle d'Hatshepsut, dont on a parlé dans cette émission. Comment ça va se passer? À quoi ça va ressembler, ce grand défilé?
Alors c'est un immense défilé qui a été très répété. Il y aura des chars, tirés, non pas des chars comme autrefois, mais motorisés, avec décorés d'ailes, avec les noms des pharaons en arabe, en anglais et en hiéroglyphe. Et on verra donc ces 22 dépouilles, je pense qu'on verra dans des cercueils un peu transparents, ces dépouilles royales qui vont quitter pour la première fois le musée égyptien de la place Tahrir jusqu'au nouveau musée des civilisations. Il y aura des fanfares, il y aura de la musique classique et de la musique militaire, et puis des gens costumés à l'antique.
Dernière question, Florence Quentin. Beaucoup de femmes puissantes dans l'Égypte antique, on l'a compris. Est-ce que pendant longtemps, on a négligé cet aspect parce que au cours des, on va dire, 19e, 20e siècle, les égyptologues étaient essentiellement des hommes, même si on a pris soin d'entendre, par exemple, Christiane Desroches-Noblecourt, mais elle était bien seule à son époque à étudier tout cela. Est-ce que justement le regard de ces hommes sur cette civilisation, dans une culture peut-être encore bien machiste et misogyne, a un peu vu cette civilisation au prisme de la culture du jour, du moment ?
Oui, comme je le dis dans l'avertissement de mon livre sur les grandes reines d'Égypte, il y a un biais de genre en égyptologie comme dans d'autres disciplines. Effectivement, on a lu ces documents, notamment comme des titres honorifiques, mais ces femmes ont réellement occupé ces postes. Mmh. Et c'était une grande reine, et même l'égyptologie écrite par des femmes au XXe siècle qualifiait encore sur une simple observation des statues d'Hatshepsut qu'elle était une femme ambitieuse, froide et cruelle. Donc il y a vraiment une relecture, et c'est en tout cas ce que j'ai tenté de faire dans mon livre, une relecture de ces grands destins de femmes qui ont contribué à la grandeur de l'Égypte.
Merci Florence Quentin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les grandes souveraines d'Égypte, aux éditions Perrin. Et puis vous participerez aussi à un spectacle musical avec des lectures de textes de l'Égypte ancienne, spectacle intitulé Les chants d'Isis. Il sera proposé en avant-première aux Sacrées Journées de Strasbourg le 12 juin prochain, si Merci. Tout se passe bien. Et que nous ne sommes pas confinés à ce moment-là, on l'espère, pour le 12 juin. On va mettre toutes les informations sur franceinter.fr. Restez avec nous, dans un instant, on part à la recherche d'une statuette péruvienne en or. Le trésor a été enterré quelque part sur le sol français. Julien Alvarez, l'organisateur de cette chasse au trésor, va tout nous expliquer.
Girls in my area cold, dark skin, light skin, medium tones. Pumping braids, got mini afros. Thick lips, got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Want a fat booty like Kardashians. Want a fat booty, then my auntie got a yo. Wheel up the blood clot, tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women things, I'm never at risk. Mind my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't they get a slice of the cake. Want a house with a view and a new pair of shoes. Keep it real from the jump. Gucci gang, little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truth. Do you, they don't care. Do you, they don't care. Get your ass out the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I rock Nikes cause we think they're clean. MJ leather jacket beat it, Billie Jean. MJ leather jacket cause I think I'm bad.
That's cool, I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be alright.
We can lose some time away.
I'll put them in cursive. Deep like I'm burying hearses. Preach like I'm doing up churches. Sin for a bit, I got urges. They got Chanel bags and purses. And I got some mashed up bands that I won't throw away cause I'm needy and hurting. I keep it in cause I can. I seen the drinks and the cans. I think it's in my genetics. So the gin and the juice that I drink, I'm indebted. So if I fall off, it's expected. Wow. Gather your thoughts and collect them now. Penny for my thoughts, make a fortune. Bow. How'd you keep rapping off beat, bro? How? Talking about you getting on the tracks this when? Everybody's here, we don't need more friends. Just do you, you ain't gotta pretend. Just do you, you ain't gotta pretend. He was doing school while they were doing ends. Now he's doing money and them man are doing pen. You know about six or five of the men. You know about half of the men follow trends. He said to me, they put guns in the streets. That's what they wanted for me. And I said, gee, someone can fix you a plate, but no one can force you to eat. Like, when will he see himself as a king and not just a pawn in these streets? And when will we come together as a tribe and be what intended to be? Yeah, I just wanna be free. Yeah.
C'était Pink Black Girls, Annie sur France Inter, et merci à Muriel Pérez qui signe la programmation musicale du Temps d'un Bivouac.
Le Temps d'un Bivouac.
Daniel Fievé sur France Inter.
Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Lecce de la madre.
Lecce de la madre.
Oui, c'est sur le plan.
Ça veut dire lait de la mer.
Lait de la mer?
Ouais.
Attends un peu, je me souviens mon premier bouquin. Trésor et désir. La cachette du trésor était tout bêtement une statue. Je ne peux pas croire que c'est moi qui fais ça.
Fais quoi?
Déterrer un trésor. Avec toi. Jack.
Ouais.
C'est le plus beau moment de ma vie.
Un extrait de À la poursuite du diamant vert. Bonjour Julien Alvarez.
Bonjour.
Passionné de chasse au trésor, au point que vous avez baptisé la maison d'édition, où vous avez fondé les éditions du trésor. Et vous venez de lancer une grande chasse au trésor, intitulée L'or de Sipane. Il s'agit de retrouver une statuette en or d'une valeur de 50 000 euros. Le trésor à trouver a été enterré quelque part en France. Que faut-il faire pour retrouver ce trésor, Julien Alvarez?
Absolument. Alors, il s'agit d'un livre qui contient ces énigmes. Et les énigmes, en fait, sont dissimulées dans un texte, dans les marges de ce texte et dans une carte au trésor dépliante et la réunion de ces différents éléments vous permet de trouver un endroit précis en France où est enterré un coffre.
Ouais. Alors dans le coffre, on trouve pas directement la statuette en or, on trouve le message qui permet de
tout à fait. Le coffre a des instructions, contient des instructions qui permettent de nous contacter. Le but, c'est d'éviter qu'un promeneur un peu ou son chien aille déterrer ça un peu par chance ou par malchance pour nous. Ouais. Et donc du coup, en effet, voilà.
Alors quel est le trésor mis en jeu exactement, cette statuette?
Alors cette statuette, elle a une petite histoire, parce qu'en effet, elle est inspirée d'une civilisation pré-incaïque, c'était dans le tombeau du seigneur de Sipane, donc au Pérou. On a découvert en fait ce seigneur enterré avec de sa famille, avec pas mal d'artefacts archéologiques, et il y avait cette statuette dont on a reproduit, dont on s'est inspiré. Et c'était une statuette en or qu'on a fait fabriquer au Pérou par justement des artisans joailliers selon des techniques un peu ancestrales. Et elle a des yeux d'émeraude.
Ouais, voilà un petit peu le... Statuette en or massif, aux yeux sertis d'émeraude, inspirée donc de ces véritables trésors archéologiques. Pour éviter que tout le monde se mette à creuser n'importe où, il y a quelques indications sur le terrain où elle est possiblement enterrée, ou en tout cas le trésor, le coffre est enterré.
Absolument. Alors, l'élément principal, c'est de se dire qu'elle est en France métropolitaine et sur un terrain public. Ça, oui. C'est l'élément le plus important.
Et aussi, je pense pas trahir, parce que c'est dans l'introduction, dans une forêt. Hein, il est dit dans la forêt de 3 petits points.
Absolument. Bel indice. Je vois que vous avez déjà commencé à chercher, Daniel. Bravo.
Je me suis lancé. C'est compliqué. Hein, les énigmes sont quand même cotons. D'ailleurs, ça a été pensé pour qu'on y passe, même si on y passe à plein temps, il y a pour plusieurs semaines à travailler sur ces énigmes.
Oui, on estime. C'est toujours compliqué d'estimer, parce qu'on ne peut pas se mettre dans la tête de chaque chercheur. Donc on, évidemment, le concepteur des énigmes cherche à ce qu'il y ait une difficulté minimum pour que ça dure quelques mois, pour qu'il y ait vraiment de l'amusement, et en même temps que ça ne dure pas trop longtemps. Donc on estime que ça va durer en quelques mois et 2 ans, c'est un peu notre cible.
Ouais, ça tombe bien, parce que pour le moment, on ne peut pas trop se déplacer sur le territoire. Donc pour le moment, toute la partie résolution de l'énigme, on peut le faire sur son canapé.
Depuis chez soi, depuis son canapé, en effet, il y a une partie donc, qui est purement intellectuelle et à la toute fin seulement, se déplacer pour aller déterrer le coffre. Donc en effet, le calendrier pour l'instant nous est... ça fonctionne.
Vous connaissez, vous, la réponse aux énigmes? Oui.
Non, alors la seule personne qui connaît, c'est le rédacteur de ces énigmes, et c'est la même personne qui a été enterré le fameux coffre. Donc c'est une personne qui est mentionné sous un pseudonyme
on connaît pas son identité.
Absolument.
Évidemment, on ne peut pas se renseigner. Vous avez une confiance en lui ou en elle absolue, parce que il a ou elle a enterré quelque part. Ça a été enterré depuis combien de temps, ce
alors
ce
on devait sortir ce livre l'année dernière, donc ça a été enterré depuis un peu plus d'un an déjà, parce qu'en effet, on devait sortir ça, on a décalé pour des raisons de Covid, et ce fameux coffre est enterré. On espère qu'il a pas été déterré. Ouais. Depuis,
il y a quelqu'un qui va vérifier de temps en temps si le coffre est toujours en place.
Il y a des techniques, une petite barre métallique qui permet de sonder le sol, permettrait par exemple de voir si elle est toujours en place ou pas.
Ouais. Alors cette chasse au trésor est inspirée, les auditeurs l'auront certainement fait le rapprochement d'une chasse devenue mythique, la Chouette d'or, lancée en 1993. Alors le principe était à peu près le même, hein. Un livre, 11 énigmes et puis un trésor d'une valeur de 150 000 euros à l'époque, cette Chouette d'or, mais c'était là aussi un facsimilé qui avait été enterré. Et vous avez, vous, Julien Alvarez, fait partie des chouetteurs, c'est comme ça qu'on appelle ces chercheurs de trésors.
Absolument, non, c'est vrai. Il y a une vraie filiation avec cette chasse au trésor qui est devenue mythique aujourd'hui, dont la longévité est vraiment, en France ou au niveau international, je crois que c'est un record.
Ah oui, parce que ça fait 28 ans qu'on a lancé cette chasse au trésor et à ce jour, personne n'a retrouvé la Chouette d'or.
Elle n'a toujours pas été trouvée. Il y a encore un certain nombre de chercheurs ou de chouetteurs, comme vous l'indiquez, qui la recherchent, en effet. Ouais. Donc moi, j'ai fait partie de ces chouetteurs. De temps en temps, je replonge un peu. Et donc, en effet, pour moi, c'était un peu une évidence de reproduire, de passer un peu du côté concepteur de chasse avec Laure de Cipane.
Sauf que sur cette Chouette d'or, maintenant, il y a un mystère, parce que le concepteur même du jeu, celui qui avait la réponse aux énigmes, est décédé en 2009. Donc aujourd'hui, d'un jeu, c'est passé un véritable mythe. On se demande, ce trésor existe-t-il vraiment? Sera-t-il trouvé un jour?
Alors c'est vrai que le concepteur est décédé. Les solutions sont chez un huissier dans un coffre, dans une enveloppe scellée. Maintenant, c'est vrai que si cette chasse n'est pas trouvée, c'est possible qu'elle ne soit jamais trouvée, cette chouette d'or, ça peut devenir une espèce de trésor légendaire. Ouais. Dont on doutera même de l'existence, on se questionnera est-ce que ce concepteur a existé ou pas. Donc en effet, elle est en train de vraiment de basculer d'un jeu à quelque chose de plus légendaire. Et voilà.
Ça n'arrivera pas dans le cadre de votre chasse au trésor, celle que vous organisez, l'or de Cipane, puisqu'il y a une durée limitée dans le temps, si j'ai bien compris.
Tout à fait, on a voulu éviter, alors c'est vrai que ça a un côté poétique, hein, ces chasses qui durent et qui ne se terminent jamais, mais nous on veut que ça reste vraiment ludique, que les gens s'amusent avant tout, hein, c'est le principe. Et donc on a limité ça à 2 ans, et donc on espère que tout ça fonctionnera bien. Nos chasses historiques, c'est la troisième qu'on lance, les chasses historiques ont été trouvées en moyenne en une année à peu près.
Vous savez, vous, Julien Alvarez, où il est enterré ce trésor?
Vous m'avez déjà posé la
question. Oui. Non, pas du tout. Vous ne connaissez pas les énigmes, mais vous ne savez pas, mais vraiment.
Ni l'un ni l'autre. Non, il n'y a qu'une personne. Ouais.
Vraiment.
Absolument.
Je ne peux pas vous faire parler. Ce n'est pas une technique pour pas que vous m'en disiez plus. Et comment être sûr que personne tombera dessus par hasard? Si ça arrivait, qu'est-ce qui se passe?
Alors théoriquement, si quelqu'un arrive et tombe sur ce coffre par hasard, il y a des instructions qui figurent dans le coffre, donc on devrait être contacté. Ouais.
Et puis je crois qu'il y a une garantie aussi, c'est-à-dire que il faut revenir avec ce coffre déterré, mais aussi avec les énigmes résolues. C'est-à-dire que si vous avez trouvé le coffre, mais que vous dites « je ne sais absolument pas pourquoi j'ai trouvé ce coffre », on vous donnera pas la petite statuette en or en échange.
Ça également, c'est pour éviter toute fraude, donc c'est des choses qui sont assez usuelles dans ce genre d'exercice. En effet, il faut pouvoir expliquer la résolution des énigmes pour éviter en effet que ça soit juste quelqu'un qui les trouver de façon illégitime, on va dire.
En quelques mots, la chasse au trésor vient de commencer. Ça a débuté officiellement le 25 mars. Il y a beaucoup de gens déjà sur le coup.
Il y a plusieurs milliers de chercheurs déjà. C'est assez impressionnant. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui sont créés. Enfin, ça part très très vite, très très fort. C'est très impressionnant.
Ouais. Bon, alors il faut plus attendre pour se lancer dans la bataille. À partir du lycée, ça va. On peut commencer à se lancer. Faut pas être trop jeune quand même.
Oui. Alors à partir du lycée, en effet. Alors on a une anecdote incroyable qu'on a découvert hier. Il y a une professeure, une enseignante qui cherche ça avec sa classe de 5e.
Ah oui.
Donc je trouve ça extrêmement touchant et mignon, mais je suis pas certain.
On ne les décourageait pas, on leur souhaite bonne chance.
Absolument.
Merci Julien Alvarez. Le livre avec les énigmes s'intitule L'or de Cipane aux éditions du Trésor. Un grand merci à vous. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Pour écouter cette émission et les précédents épisodes, il y a le podcast et l'appli Radio France. Avec l'appli, vous pouvez remonter jusqu'aux 7 saisons précédentes. Et pour nous laisser un message, vous connaissez le chemin, la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et puis dans un instant, on retrouve Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin qui nous emmène à la découverte de la lumière invisible.